Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot. This is why,
this is why, this is why I'm hot, hot. France Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique. Dernier Soft Power d'ailleurs de la saison, puisque demain matin, on l'a dit, la grille d'été de France Culture commencera avec de nouvelles émissions, de nouvelles voix, une nouvelle couleur d'antenne aussi, sinon plus chaude, du moins plus estivale. Nous sommes quant à nous en direct ce soir jusqu'à 20h30. L'été sera donc chaud mais aussi sportif et même si on n'a pas gagné la Coupe du Monde de football féminin vendredi, la France aura ses rendez-vous sportifs tout au long de l'été entre le Tour de France qui commence cette semaine et la Coupe du Monde de rugby qui terminera l'été en septembre et ce sera au Japon. Pour évoquer cet agenda sportif de l'été et prendre au sérieux sur France Culture, prendre au sérieux également le sport comme industrie créative et comme soft power. Je reçois ce soir le directeur de la rédaction du journal L'Équipe, Jérôme Cazadieux. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Un dessin de L'Équipe ce dimanche montre le bus de l'équipe de France de football féminin sur l'autoroute tout droit, direction la demi-finale, ou à droite, sortie intitulée « Vacances ». Alors le bus, évidemment, met son clignotant pour sortir. C'est un peu sévère.
C'est vrai
aussi.
Oui, après, on a eu un tel engouement populaire qui était assez inespéré, je pense.
Inattendu aussi.
Et inattendu, tout à fait inattendu autour de l'équipe de France, que voilà, nous on a titré la gueule de bois le lendemain de l'élimination de l'équipe de France, puisqu'en fait, voilà, se pose quand même la question de la suite. Voilà, cette effervescence qu'on a vu naître, comment dire, dans les tribunes, avec beaucoup de téléspectateurs devant.
Et qu'on verra quand même encore à Lyon cette semaine.
Voilà, exactement. Voilà, comment elle va se transformer derrière. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Notamment savoir comment le foot féminin va pouvoir consolider, je dirais, son développement dans le championnat de France.
Malgré le 2-1 gagné par les Américains.
Exactement.
Toujours au sommet de cette émission, dans un instant, on parle du concept de soft power autour d'une thèse qui vient tout juste d'être publiée sur le soft power français par Pierre-William Frégonnez. Il est notre invité en début d'émission. Et puis en seconde partie à 20h, votre invité innovation ce soir, Zoé Sfez.
Et oui, pour terminer la saison, j'avais envie qu'on parle d'un livre qui est à la croisée à la fois des réflexions structurelles que l'on mène dans cette case depuis le début de l'année sur la manière dont le numérique transforme notre société, et puis aussi sur de la fiction. Et donc je reçois Serge Abitboul, qui est donc un chercheur, qui est notamment chercheur à l'INRIA, et qui publie un très beau petit livre, Le bot qui murmurait à l'oreille de la vieille dame, à chaque fois une nouvelle d'anticipation, une explication sur l'état des choses. On en parle avec lui de très bons exemples extrêmement bien illustrés qui montrent comment notre société évolue.
20h10, le Club de la Presse Numérique. Nous reviendrons dans ce rendez-vous régulier, le Club de la Presse Numérique, sur le cyberconflit entre les États-Unis et l'Iran. Et nous en parlerons avec vous, Emmanuel Paquette. Bonsoir.
Bonsoir Frédéric.
Journaliste à l'Express, ainsi que Gilles Fontaine de Challenge. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce soir. Émission réalisée par Émilie Valla avec en régie Alexandre Dang. Soft Power, c'est aussi sur les réseaux sociaux, mot-clé Soft Power, et en podcast chaque semaine sur le site de France Culture, sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power jusqu'à 20h30 sur France Culture en direct. Vous publiez un ouvrage intitulé « De la stratégie culturelle française au XXIe siècle ». Pierre-William Frégonnez, vous avez fait votre thèse sur ce sujet. Et là, c'est la version publiée chez Classique Garnier, la version livre de la thèse, j'imagine un peu réduite.
Exactement.
Elle a perdu combien de kilos ?
Ah, un petit peu, une introduction qui passe de 40 pages à une dizaine.
Voilà. La bibliographie est raccourcie, exactement. Les notes de bas de page, etc. Alors vous revenez notamment dans ce livre, vous citez d'ailleurs l'émission Soft Power à plusieurs reprises, vous revenez sur le concept original qu'on doit à un universitaire américain, aussi d'ailleurs pas n'importe quel universitaire, parce qu'aussi vice-secrétaire américain de la Défense, le concept original de Soft Power.
Exactement. Le soft power, c'est un concept qui a été créé par Joseph Nye en 1990, dans un ourage qui s'appelle Bound to Lead.
Et qui c'était pas l'émission soft power qu'il avait créée, c'est lui.
Et non. Non, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Il faut voir que ce concept, il est vraiment très politique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en a à la fois beaucoup parlé, mais on l'a aussi un peu critiqué, il faut le dire. Mais surtout, il faut comprendre que c'est un concept de fin de guerre froide. Et l'idée de Joseph Nye, elle est finalement assez simple. C'est de se dire, les États-Unis vont gagner la guerre froide. On est après la chute du mur de Berlin, quelques temps après. Et beaucoup d'intellectuels vont commencer à dire, oui mais maintenant que l'URSS est tombé, ça va être au tour des États-Unis. Et lui va répondre en disant que la puissance aujourd'hui a changé. Et que les États-Unis peuvent garder leur prédominance grâce au soft power.
Alors le soft power, pour le rappeler, c'est quoi ?
Alors, on peut le définir très simplement. Le soft power, c'est la capacité de séduire. C'est amener tout simplement un autre État à agir de la manière dont on veut, sans que celui-ci ne s'en rende compte. Comment on fait ? Tout simplement par la culture, par une autorité morale, ou encore par des valeurs politiques.
Mais aussi par le numérique, par les industries créatives, etc. Pourquoi pas par le sport ? Peut-être pas dans le football pour les Américains en général, mais dans le sport féminin, oui, en l'occurrence.
Tout à fait. Il se trouve que Joseph Nye est revenu de nombreuses fois sur son concept. À la base, pour lui, le soft power, c'était quelque chose de très étatique. Très étatique. Et c'était quelque chose qui, in fine, nécessitait ce qu'on appelle un hard power. Hard power, c'est-à-dire une puissance militaire ou une puissance économique. En tout cas, certaines formes. Pour lui, on ne pouvait avoir un soft qu'en ayant un hard. Il s'est rendu assez vite compte que certains pays avaient un soft sans avoir forcément de hard. L'exemple du Japon, hyperpuissance culturelle, l'exemple de la Corée du Sud. Et in fine, il est revenu sur son concept. Il a ajouté certaines choses, comme pour le numérique, le concept de cyberpower, qui développe notamment en 2011, qui est un vecteur de la puissance. Et finalement, le soft power, ça va être un concept, parfois un peu caméléon, où on va ajouter des choses dedans, on va le retrancher, et on va toujours l'adapter à l'actualité.
Il l'adapte aussi parce qu'il montre que le soft power ne peut pas forcément être géré par des États, mais peut l'être aussi par la société civile, par des organisations à but non lucratif, par aussi, par exemple, les musées américains, les théâtres, les opéras qui ne sont en rien gérés aux États-Unis, en tout cas par l'État.
Exactement. Il va montrer que la société civile et le secteur privé, finalement, vont avoir un rôle qui est premier dans l'influence culturelle d'un État. Premier parce que déjà, quand un État a un processus d'influence culturelle, il va passer par la diplomatie, ça coûte cher. On le voit bien en France, le budget de la diplomatie culturelle baisse d'année en année. Et puis aussi, quand un État finance une sorte d'influence, ça se voit. Et très vite, on peut passer de l'influence à la propagande. Donc l'idée, c'est finalement de créer des conditions favorables pour que les artistes soient épanouis, pour que les musées fassent des expositions à la fois français et étrangers, et que finalement, on ait une vraie influence, une influence légitime.
Et aussi tout ce débat, c'est la manière dont, et c'est le sujet notamment de cette thèse, de la stratégie culturelle française au XXIe siècle, comment la France va s'adapter à cette notion de soft power et comment elle va en faire sa propre lecture, parfois même au prix d'une forme d'instrumentalisation.
Exactement. La France a un petit peu de mal avec ce concept-là, il faut le dire. C'est un concept qui va vraiment prendre pied en France à partir de l'année 2006-2007, dans ces eaux-là. Mais surtout par les journalistes ou les think tanks. Les universitaires, pas mal le mettre de côté. Peut-être parce que c'est un concept anglo-saxon, mais surtout parce qu'il est assez synthétique, c'est pas un concept analytique. Et puis parce que pour nous, la culture, ce n'est pas forcément un outil de la puissance.
Et en tout cas, c'est souvent l'État qui le gère, en tout cas qui a sa propre vision du soft power.
Exactement. Et il y a un moment qui est très important, c'est finalement en 2011. Puisqu'en 2011, il y a deux faits, un fait médiatique et un fait politique. Le fait médiatique, c'est que l'émission on est actuellement, eh bien, qui s'appelait Masse Critique, s'appelle Soft Power.
Bon, ça c'est un...
Donc, au moins c'est placé. Voilà.
Merci.
Et le deuxième tournant, c'est que la même année, Nicolas Sarkozy, alors président de la République française, lors de la 19e conférence des ambassadeurs, va déclarer le soft power, c'est le paravent au renoncement. Donc, d'un côté, on a une prise de conscience des médias, de certains secteurs, de la recherche, etc., d'une certaine recherche en tout cas. Et de l'autre côté, au niveau politique, ça n'avance pas beaucoup. On peut le voir par les rapports parlementaires. Grosso modo, on a du soft quand on n'a pas de hard power.
Soris Fez.
Plein de questions là-dessus, vous avez différents exemples, mais vous avez dit que c'est l'idée d'influencer un État sans qu'il s'en rende compte. Est-ce que c'est une définition qui est toujours valable? Est-ce que ça n'est pas tout simplement sans le contraindre? Parce que ces objectifs de soft power dans certains pays, notamment, alors même si la Corée du Sud, on peut en parler, ils sont complètement assumés. La Chine, par exemple, voudrait investir dans le soft power et investit dans le soft power presque de manière tellement forte que ça fonctionne plutôt mal.
Exactement. En fait, il faut un équilibre. Et c'est ça le grand problème à trouver. La Chine a une culture millénaire, mais souffre du Made in China. Le Made in China, ça la poursuit. Et in fine, elle a du mal à faire passer sa culture. Quand on est trop agressif, c'est plus du soft power, c'est de la propagande. Il y a un exemple qui est très simple, c'est le Qatar, avec le PSG.
On y reviendra, mais sur la Chine, les instituts Confucius, d'une certaine manière, sont un échec total, parce qu'à force de vouloir faire de la propagande, et d'apprendre le chinois en expliquant que la place Tiananmen, elle est fleurie, elle est tout à fait magnifique, on oublie ce que les gens veulent, pas simplement apprendre une langue, mais aussi comprendre une réalité politique.
Alors que ces instituts Confucius, pour rappel, simplement, aujourd'hui, je crois qu'ils vont dépasser en chiffres à la fois les instituts français et une grande partie de leurs homologues anglais. Aujourd'hui, ils sont très 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 nombreux dans le monde.
Tout à fait. Alors, après, la Chine et les pays en général est-asiatiques, c'est un peu particulier, parce que la langue, par exemple, est assez difficile à comprendre. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup d'inscrits, mais il faut savoir le nombre de personnes qui sortent diplômées. Donc les indicateurs sont un peu biaisés. Mais effectivement, concernant la Corée du Sud a pu miser, par exemple, sur la K-pop, sur une privatisation de l'influence qu'elle a ensuite récupérée. Mais ce qui est intéressant, c'est que la K-pop n'a pas émergé, n'a pas connu son succès en Corée du Sud, elle l'a connu en Chine, par exemple. Donc, aussi, il peut y avoir une part, quelque part, de hasard qu'on se réapproprie pour développer une influence. Comme en France, avec, par exemple, une culture historique, la Tour Eiffel fait toujours autant vendre, on n'a pas besoin de faire une promotion dessus. Voilà.
Alors on peut faire une promotion à travers, par exemple, et là on en vient à quelques exemples rapides, les Gouttes de Dieu, par exemple, là c'est un manga japonais, mais qui a fait aimer le vin français.
Alors exactement, Les Gouttes de Dieu, c'est un manga qui est sorti au Japon en 2004 et en France en 2008. C'est un manga qui finalement a connu un beau succès. On avait des ventes d'exemplaires au début des années 2010 à 25 000 à peu près, ce qui est quand même colossal. Ce manga-là a un pitch qui est très classique, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec le fils d'un œnologue qui va essayer de trouver 12 vins légendaires et le 13e, Les Gouttes de Dieu. Donc un manga un peu d'aventure sous fond de vin. Mais on a vu qu'en parallèle de la diffusion de ce manga, de la diffusion de l'animé qui va avec, qui est diffusé en Asie, Corée, Chine, etc., eh bien, on avait une augmentation exponentielle des ventes de vin en Asie de l'Est, et notamment en Chine et Hong Kong. On parle quand même de plus de 30% entre 2009 et 2012. Des bouteilles qui valaient, notamment des vins parfois de Bourgogne, 7, 8, 9, 10, un petit peu plus d'euros, qui se retrouvaient à 1 000 $ sur le marché noir à Hong Kong. Donc là, on a eu un effet direct. Et pourquoi ça a si bien marché? Parce que les gens, il y avait une narration derrière, quand ils regardaient, on leur racontait une histoire, on leur vendait pas un produit. Et in fine, c'est ça aussi qui a participé. Si nous, on avait fait des publicités, avec Marque France, etc., ça n'aurait pas marché aussi bien.
Et ça aurait coûté cher et ça n'aurait pas rapporté grand-chose. Autre exemple, la maison française à Oxford. Alors là, c'est un exemple pas forcément très favorable aux Français.
Oui, alors c'est un exemple que je développe dans l'ouvrage. La maison française d'Oxford, c'est une histoire très particulière.
Ancienne.
Ancienne, pour faire très bref. L'idée, elle vient dans la tête de Claude Schaffer, un archéologue ancien du Collège de France, qui en 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale, est à Oxford. Il est fellow au St. John's College, professeur, et il va se dire, il faudrait qu'on fonde un centre d'études françaises à Oxford. Donc il rejoint la France libre, et il va convaincre la France libre de développer ce projet-là. L'idée, c'est d'avoir une structure française à Oxford, pour qu'on apprenne le français, et pour aussi qu'on vive à la française. Que des étudiants de Grande-Bretagne viennent à la maison française, acquièrent l'esprit français, boivent du vin, etc. Et donc cette idée-là vient d'une personne, une initiative privée, Claude Schaffer. Et puis peu à peu, on voit que la direction des affaires culturelles prend la main dessus.
Le ministère des Affaires étrangères,
oui. Voilà, la maison est lancée, les premières décennies sont extrêmement favorables, et puis d'un coup, on change de fusil d'épaule. C'est-à-dire que le CNRS va arriver, va prendre quelque part la main dessus, et ça va devenir autre chose. Pas forcément moins bien, mais autre chose. C'est-à-dire qu'avant, on avait un outil d'influence. Voilà. Maintenant, on a un outil d'excellence scientifique. Avant, on faisait des apéritifs wine and cheese avec des centaines de personnes, pour leur montrer l'amour de la France. Aujourd'hui, on va faire une conférence assez évoluée sur la théorie balzacienne et avoir 15 personnes dans la salle. Je schématise, mais c'est un peu ça.
Autre exemple, Doctor Who, alors là c'est le contre-exemple, c'est une série ancienne d'ailleurs, des années 60, recréée en 1985, et une série qui critique sa propre culture. Comment vous voyez ça?
Alors Doctor Who, c'est la série un peu phare de la BBC. Et c'est intéressant parce qu'elle suit un chemin finalement contraire à la Maison Française d'Oxford. La Maison Française d'Oxford, c'était au départ pour influencer, et c'est devenu un outil scientifique très poussé. Et Doctor Who, à la base, c'est une série de vulgarisation scientifique pour les jeunes britanniques, et c'est devenu un outil d'influence considérable. Il faut penser qu'en 2013, il y a un épisode spécial qui s'appelle Day of the Doctor, qui est sorti, et il y a quand même plus de 700 000 Français qui l'ont regardé un samedi soir sur France 4. 700 000, alors qu'il y avait Danser avec les Stars sur TF1. Donc il y avait de la concurrence, il faut bien le dire. Donc c'est quand même un outil extrêmement important, et puis Doctor Who a compris quelque chose. Ils ont compris que pour influencer, volontairement ou non, il fallait avoir un sens de l'autocritique pour se légitimer culturellement. On glisse quelques pics sur la Grande-Bretagne, sur l'Angleterre, sur l'Écosse, pour au final être beaucoup plus crédible quand on s'attaque à la France, à l'Allemagne et surtout aux États-Unis. Donc Doctor Who, c'est un exemple. Et puis, ils sont vraiment en première ligne dans la stratégie beaucoup plus inclusive de la BBC entre 2016 ou 2020 pour tout ce qui est représentation LGBT. Donc quelque part, ils ont aussi une caution morale en plus d'être un outil d'influence. Puis elle est faite par Margatis et Stephen Moffat, qui aussi font Sherlock. Donc ils sont vraiment des showrunners d'exception.
On peut peut-être prendre l'exemple du Bureau des Légendes, parce que c'est aussi, je crois, la série française qui se vend le mieux à l'étranger. C'est une des séries, je crois que c'est d'ailleurs l'une des seules séries en langue non anglaise, qui dépasse un certain millier de vues aux États-Unis. Est-ce que ça fonctionne? Ça met en scène l'État français, mais de manière presque un peu miteuse ou souterraine. Comment est-ce que vous le lisez, ça?
Et la DGSE, bien sûr.
La DGSE, bien sûr.
Et la DGSE, effectivement. Alors, le Bureau des Légendes, c'est vrai que c'est une grande réussite, notamment parce qu'ils ont essayé, en tout cas via la DGSE, puisqu'ils représentent la DGSE, d'avoir une véracité dans leurs propos et de montrer quelque chose d'un peu différent par rapport à ce qui se fait notamment aux États-Unis. Il faut savoir que la plupart des séries françaises ou britanniques sont adaptées aux États-Unis d'une autre manière.
Le concept est vendu, mais on ne garde pas ni les acteurs, ni les images, ni les réalisateurs.
Exactement. On peut penser à la série Broadchurch de la BBC qui avait été reprise, où on n'avait gardé que l'acteur principal. Le Bureau des Légendes, il y a quand même une série qui s'appelle Legend, aux États-Unis, qui est un peu sur le même concept. Donc pourquoi ça marche? C'est une excellente question. Là encore, voilà, on peut dire que ça montre bien la DGSE et surtout que ça offre une proposition qui est différente. En fait, je pense que c'est la clé de beaucoup de choses, c'est-à-dire ne pas vouloir forcément copier, mais montrer une différence tout en apprenant de ce qui peut fonctionner au niveau mainstream. Parce qu'on garde quand même un suspense particulier, on garde des twists qui sont là. Bon.
Puis on a un grand fan ici, Emmanuel Paquette, du Bureau des Légendes.
Silencieux.
J'écoute.
Vous aimez toujours le Bureau des Légendes?
J'attends la prochaine saison, oui.
Pour terminer, peut-être le PSG, le Qatar. Là aussi, ça va nous faire une transition toute trouvée avec le journal L'Équipe. C'est du soft power.
Exactement. Il se trouve que depuis que le Qatar a racheté le PSG, donc c'était en 2011, donc ça fait quand même quelques années, on a vu beaucoup écrit, un peu partout, que le Qatar se servait du PSG comme un étendard de sa diplomatie sportive et de son soft power. Bon. Je pense que je ne vais pas, peut-être pas choquer beaucoup de monde en disant que ça ne fonctionne pas très bien. Peut-être parce que déjà, c'est pas vraiment un soft power. Là, on est à la lisière avec la propagande. Parce qu'à partir du moment où tout le monde sait que c'est un outil d'influence, finalement, on influence beaucoup moins.
On influence surtout, ça reste quand même le PSG, c'est-à-dire la France, en tout cas Paris.
Exactement, ça reste Paris. C'est-à-dire qu'à l'étranger, le PSG garde l'image de Paris. À la limite, ça peut faire la promotion de certains joueurs, comme Kylian Mbappé, mais qui a l'image de la France. Donc là encore, on va promouvoir la France. À l'époque, Ibrahimovic, c'était la Suède, on a l'entraîneur, etc. Donc ça va bénéficier à beaucoup de nationalités, mais in fine, ce sera quand même la France derrière. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est que l'influence culturelle, elle va dans deux sens. Et si on prend le PSG, et bien quelque part, le Qatar aussi est influencé, en retour, par un modèle occidental. Ça, c'est quand même une question, à mon avis, qui est prioritaire. Et une deuxième chose, si on prend une relation qui pourrait être saine d'influence, il y a le modèle de Kylian Mbappé, qui était en promotion au Japon, il y a une semaine à peu près, et qui a été dessiné par le mangaka d'Olivier Tom. Et là, c'est très intéressant. Parce qu'in fine, l'influence, elle bénéficie à qui? Elle bénéficie à la France, et qui est à Mbappé, ou elle bénéficie au Japon? En tout cas, pas au Qatar. Mais elle va bénéficier aux deux. Parce que c'est un jeu qui, finalement, l'influence est souvent bilatérale, et aujourd'hui, on n'a pas assez d'influence partagée.
Pierre-William Frégonnez. Le livre s'appelle « De la stratégie culturelle française au XXIe siècle ». C'est publié au Classique Garnier. Vous publiez d'ailleurs, Pierre-William Frégonnez, un autre ouvrage, « Raconteur d'histoire sur le scénario de jeux vidéo ». Et là, c'est publié aux éditions Pix and Love. Et c'est un tout autre ouvrage avec des images, des dessins, etc. Autre chose que une thèse. Les deux vont de pair.
Très lié à l'influence aussi sur le métier de scénariste, vraiment de storyteller du jeu vidéo. Comment on fait passer des messages dans les jeux?
Où les Français sont très bons. Cocorico, mais on peut le dire quand même.
Voilà, Cocorico. Dans un instant, je reçois Jérôme Cazadieu, le directeur de la rédaction de L'Équipe. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité, finalement, autour de ce livre, un mot sur Philippe Dzar, et donc sur le duo Cassius, qui vient de sortir son nouvel album. Le 19 juin dernier, Philippe Dzar, moitié du duo Casiar, est mort à son domicile parisien lorsque le garde-corps en fer de son balcon s'est accidentellement effondré. Philippe Dzar était considéré dans le monde de la musique comme un producteur de génie, une sorte de figure tutélaire de la première vague électro-française avec ses groupes Motorbass et donc Cassius. Il avait été l'un des pionniers de la French Touch dans les années 90. Il avait également collaboré en tant que producteur avec de nombreux artistes, parmi lesquels les Raptures, les Beastie Boys, Kanye West, Cat Power. Il avait reçu en 2010 un Grammy Award pour son travail sur l'album Wolfgang Amadeus Phoenix de Phoenix. Le dernier disque de Cassius, Dreams, radieux et dansant, est sorti ce 21 juin, deux jours après la mort de Dzar. Un hommage aussi triste qu'inattendu. France Culture, 19h23.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Bonsoir Jérôme Cazadieu, vous êtes le directeur de la rédaction de L'Équipe.
C'est exact.
Alors ce dimanche, L'Équipe consacre deux pages, et on pourrait commencer par cette question, ce sujet d'un portrait et d'un entretien à un écrivain, Denis Lalanne, ancien journaliste de L'Équipe, qui de 1955 à 1991 a écrit sur le rugby, sur le tennis ou encore sur le golf. Pourquoi Denis Lalanne ?
Denis Lalanne incarne et incarné, je dirais, une tradition au journal d'avoir des journalistes et écrivains qui ont participé à la rédaction un peu de la mythologie du sport. Je dirais qu'il est dans la lignée de ce qu'on a connu dans l'après-Seconde Guerre mondiale, avec toutes les chroniques qui avaient été faites par Antoine Blondin sur le Tour de France.
Alors dans ce bel entretien, justement, il évoque des écrivains du sport dont il est, et notamment Joseph Kessel, Roger Nimier, et surtout, vous le citiez, Antoine Blondin. On pourrait compléter cette liste en citant Pierre Loti sur la pelote basque, Paul Morand, Jean Giraudoux, Jean Giono, ou même les articles sur le tennis de Serge Danet, ou plus récemment ceux de Paul Fournel ou Tristan Garcia. C'est cette tradition que, au fond, à travers un entretien comme ça, vous voulez revendiquer ?
Oui, bah, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a encore dans la rédaction des journalistes qui ont cette capacité à raconter le sport différemment au-delà du journal. Je pense en particulier à Philippe Brunel qui travaille par exemple sur le cyclisme chez nous, qui avait fait un remarquable ouvrage sur la mort de Pantani, où il avait fait une enquête, une contre-enquête qui ressemblait assez à un polar, je dirais. Vous avez Vincent Duluc qui travaille par exemple à la rubrique Foot aujourd'hui, qui a écrit un roman il y a 4 ans sur le 5e Beatles, voilà, qui racontait...
Mais ça veut dire que le style est important, doit être important, l'équipe ?
Tout à fait, le style a toujours été un élément extrêmement ancré chez nous. Je dirais qu'il y a une double culture à l'équipe. Il y a la culture, bien sûr, de l'écriture qui a été portée par Antoine Blondin notamment, mais je dirais chez nous d'ailleurs, les journalistes, on a parlé de Denis Lalanne, mais on peut parler également de Pierre Chani, voilà, sur le cyclisme, qui a été également un très grand journaliste et écrivain. Et je dirais, ce qui va de pair avec ça, c'est qu'on a été, et on l'est encore, un constructeur du sport, puisque les dirigeants de l'équipe, oui, les dirigeants de l'équipe, hein, les directeurs de la rédaction de l'époque, ou les directeurs généraux, ont inventé, voilà, des compétitions qui sont les compétitions qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a une forme de, je dirais que on a créé des compétitions comme la Coupe d'Europe par exemple en 1955, et derrière en fait on a créé le Tour de France, hein, avec l'auto, c'était Henri Desgranges qui l'avait créé, et d'une certaine manière le récit, voilà, ce récit un peu mythologique de ces grandes compétitions, il est également assuré par des journalistes qui sont également écrivains.
Longtemps, on a considéré qu'écrire pour le sport, faire du journalisme sportif, c'était un peu mineur ou secondaire. Est-ce que c'est aussi grâce à ça, paradoxalement, qu'on a plus misé sur l'écriture, sur plus donné libre cours à son style ?
C'est difficile de répondre à cette question. C'est sûr que le sport a souvent été considéré comme un genre mineur.
C'est très français, non ? Parce que j'ai l'impression qu'en Grande-Bretagne et en Italie, par exemple, c'est pas du tout un genre mineur. Voire au contraire, il y a de grands intellos qui s'y livrent. En France, il y a une espèce de paradoxe bizarre sur ça.
Tout à fait. Ça a été le cas pendant des années. Ça change un peu, je dirais, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, puisque le sport maintenant intéresse globalement tous les médias. Tous les médias traitent de sport, hein, quel que soit leur support. France Culture aussi. Donc, je dirais que la perception elle a changé. Ce qui est intéressant en fait dans le sport, c'est que c'est le prétexte à toutes les histoires, puisque nous avons des oppositions, des confrontations, nous avons des portraits assez incroyables. Vous avez des enquêtes aussi, puisque il y a des choses qui ont été mises en place au niveau des États. On parlait tout à l'heure des États, l'influence des États. On l'a vu il y a pas très longtemps avec la Russie sur le dossier du dopage, un dopage étatique qui a été organisé, qui rappelle quelque part le dopage qui existait en RDA dans les années 70. Donc on a, je dirais, tout un ensemble d'éléments qui participe, à une narration, à un imaginaire, et que cet imaginaire, il peut, s'exprimer le mieux, je dirais, c'est dans des romans, et on a beaucoup d'écrivains, voilà, qui ont toujours eu une passion pour le sport, qui est une passion qui, pour moi, tient à la fois d'une vision un peu philosophique du monde, voire parfois, une vision morale, voilà. Souvent, le sport doit être porteur de valeurs, voilà, donc ça amène un certain nombre de débats. Je pense par exemple au débat qu'on avait eu en 2010 après l'affaire Naïsnia, où il fallait que les footballeurs soient des modèles, voilà. Alors ça interroge en permanence, voilà. Est-ce qu'un footballeur doit être nécessairement un modèle pour la jeunesse?
Alors le sport comme littérature, le sport comme roman, le sport comme écriture, mais le sport c'est aussi un soft power, on l'a dit, c'est aussi une industrie, c'est aussi de l'argent, c'est aussi des contrats très lourds. C'est pourquoi nous avons Emmanuel Paquet de L'Express avec nous ce soir, qui vous interviewe également, ainsi que Zoé Svez.
Oui, quand on regarde un peu vos chiffres de diffusion, alors il y a une année 2018 qui a été extrêmement bonne, hein, puisque c'était la Coupe du Monde. Et là, depuis un an, entre mai, avril 2018 et mai 2019, on voit une érosion de vos ventes, que ce soit en kiosque ou en abonnement. On est autour de moins 5% en kiosque, moins 10% en abonnement. Tout ça, en fait,
abonnement
avec,
papier, hein.
Abonnement papier,
voilà.
Oui, là,
en sachant que nous, l'abonnement papier, je le redis, hein,
est assez faible globalement.
Il est assez faible parce que nous, on fait un journal qui boucle à minuit ou minuit et demi. Donc, juste d'un point de vue très technique et très pratique, nous ne pouvons pas distribuer le journal du lundi, le lundi, en dehors de Paris et de la région parisienne. Donc, on ne peut pas développer l'abonnement.
Par contre, vos abonnements sont forts en numérique, 240 000 à peu près, avec une progression de 9 000 juste à cause de la Coupe du Monde de football féminin.
Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre, le point d'entrée pour essayer de transformer des lecteurs gratuits en lecteurs payants, c'est le numérique chez nous, avec une construction qui remonte. On a lancé le payant en 2013 et tous les événements sont souvent extrêmement porteurs pour capter, une audience nouvelle. Et là, la Coupe du Monde féminine nous l'a permis, de toucher un autre public. On pense davantage de femmes. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement intéressant pour nous.
Et voilà. Vous savez combien de lecteurs sont des lectrices et combien de lecteurs vous avez par numéro ? Vous avez toujours des questions.
Alors, sur le print, on estime qu'on a quelque chose comme 80% de lecteurs masculins, alors que sur le numérique, on est plutôt à 65%. Bon, après, c'est pas très scientifique non plus. Ouais. Voilà, c'est des études de fond de marque qui permettent de faire ressortir ces éléments-là. Mais voilà. Moi, je crois pas que le sport va rester, une matière qui intéresse uniquement les hommes. Voilà. C'est une matière c'est un fait de société, c'est quelque chose qui est culturel. Voilà. Le sport aujourd'hui, qui dépasse les frontières juste de la performance. Donc, il est pratiqué par des hommes comme par des femmes. Voilà. Il n'y a jamais eu autant de femmes, par exemple, qui couraient. Voilà. Donc, je suis assez persuadé que, cette répartition, elle va évoluer vers plus d'équilibre dans les années à venir.
Vous allez l'accompagner parce que quand on lit l'équipe, ce qui n'est pas forcément l'activité quotidienne, en tout cas de certains journalistes autour de cette table, il y a une manière de parler du sport qui est essentiellement liée au match, à toutes les entreprises, à toutes les différents sports possibles, etc. Assez peu sur le mode de vie sportif, c'est-à-dire par exemple, justement, je fais du footing,
je suis marathonien comme
voilà,
le métier des Parisiens
j'ai une enfin c'est plutôt le sport en tant que qu'industrie et non pas en tant que bien vivre au quotidien.
Alors moi, je dirais que historiquement, l'équipe, c'était un média qui a développé une offre d'information liée à la passion pour le sport. Voilà, c'est-à-dire qu'on partageait la passion que les lecteurs avaient du sport et que la rédaction pouvait avoir. Ça correspond à une époque qui est révolue, puisque c'est une époque où les journalistes de l'équipe pouvaient prendre la voiture pour aller sur une compétition avec les sportifs eux-mêmes, les entraîneurs, etc. Mmh. On est passé après à une deuxième ère, qui est une ère, je dirais, un peu chiffrée, voilà, où c'était vraiment l'apparition des statistiques, la télévision est arrivée également à ce moment-là.
Avec la problématique des droits, qui fait que vous n'avez pas du tout le même rapport avec les joueurs, etc.
Exactement, avec la problématique des droits. Et nous, aujourd'hui, on est, dans à l'ère de l'information. Donc, c'est un peu comme Radio France. Radio France, vous avez différentes antennes. Nous, on a différents titres, différents supports. Voilà, France Culture, c'est plutôt la culture. France Inter, c'est plutôt société. Bah, nous, on utilise nos différents...
Donc, vous avez Vélo Magazine, c'est le mensuel. France Football, c'est l'hebdo le mardi. Sport et style, mensuel. Et puis, le quotidien.
Et le magazine aussi. Et le magazine du samedi.
Qui est mensuel maintenant. Non, qui est hebdomadaire.
Hebdomadaire.
Qui a été mensuel, puis qui est redevenu hebdomadaire.
Avec ses unes, c'est hebdomadaire. Avec ses une célèbre récente sur les douches, ouais. Sur le tabou des règles pour le sport féminin, la une sur l'homophobie qui a fait beaucoup parler.
Tout à fait. Pour moi, le magazine est là pour élargir, je dirais, le territoire. Voilà, nous, on est dans une logique aujourd'hui où se dire que le sport, c'est pas juste un territoire qui est fermé dans les résultats, dans des classements, dans des compétitions. Donc, c'est nécessaire pour nous d'élargir le terrain. Après, pour élargir le terrain, il faut le faire de manière, je dirais, lisible et compréhensible pour les lecteurs. Un lecteur qui s'abonne, au numérique, souvent il veut avoir une information un peu en temps réel. Et le quotidien est assez proche de ça. Je dirais que le quotidien est devenu un peu plus magasiné, avec beaucoup plus d'enquêtes, par exemple, qu'auparavant.
Là, vous avez fait venir Stéphane Selami, notamment, pour créer une cellule enquête, investigation.
Oui, oui,
il
vient du Point. Voilà, il était au Point jusqu'à la fin d'année dernière. On a vu, dans le développement du sport et l'intérêt que les médias portent sur le sport aujourd'hui, c'est une judiciarisation, des affaires. Et donc, il nous était nécessaire, d'être aussi à la pointe sur ce type de contenu. Et donc, on travaille beaucoup à sortir des affaires qui sont judiciaires. Donc, on a été très fort, notamment sur les paris sportifs dans le tennis, qui phagocytent complètement aujourd'hui le classement ATP. On peut dire que le classement ATP, il est faux, au-delà de la 50e ou 60e place. Le classement ATP, c'est le tennis, je le rappelle. Donc voilà, on essaie vraiment d'aller, sur toutes les dimensions du sport. Vous évoquiez tout à l'heure le magazine. Le magazine sert notamment à avoir un aspect sociétal. Voilà. Pour nous, c'était extrêmement important. On a eu beaucoup de faits d'homophobie dans le sport et dans le foot, en particulier dans les tribunes. Et c'était important pour nous, de faire un sujet là-dessus. Et voilà, en ayant... Nous, on n'est pas des militants, mais on n'est pas non plus coupés de la réalité de la société française.
Emmanuel Paquette.
Pour revenir sur les magazines, la lettre A indiquait qu'il y avait un plan d'économie en cours et que notamment les magazines étaient fortement visés, notamment la parution de France Football qui pouvait devenir éventuellement mensuelle. Qu'en est-il ? Parce qu'effectivement, sur l'année 2017, l'équipe a perdu de l'argent. Alors 2018, les comptes ne sont pas encore déposés, donc j'ai pas pu voir. Mais
2018, on gagne de l'argent.
D'accord. Mmh. Donc, et d'où un plan de réduction du coût, du coup ?
Non, en fait, les choses sont assez simples. Nous avons fait, dans l'année 2018, en perspective des années qui viennent, avec ce que vous connaissez aussi à l'Express, c'est-à-dire des kiosques qui ferment, un usage sur le papier qui est en diminution. On est obligé d'être dans des transformations. Donc, on a, en 2018, fusionné les rédactions print et numérique. On a également réalisé un plan social sur les moyens de réduction, puisque nous avions des moyens de réalisation, c'est la maquette, c'est la correction, c'est l'iconographie. On en avait pour les différents magazines, on en avait aussi pour le quotidien. On a mutualisé tout ça. Le but étant évidemment de pouvoir, aussi se préparer à acquérir de nouvelles compétences sur des domaines qui sont des domaines dits du numérique afin de préparer l'avenir. Donc s'agissant de France Football aujourd'hui, on n'a pas de France Football est un titre qui souffre, comme beaucoup de titres de la presse magazine. Le format hebdomadaire est un format qui est en danger aujourd'hui en France, je pense qu'on le sait tous, mais France Football est une marque qui est essentielle pour nous. Il va falloir peut-être l'orienter un peu différemment, de sorte qu'elle ne soit pas trop écrasée par l'équipe, qui aujourd'hui est devenue un média qui s'est énormément développé. Pour moi, l'équipe aujourd'hui, c'est une plateforme, c'est une plateforme qui va sur tous les territoires.
Ça pourrait être une agence un peu plus internationale qui vendrait un certain nombre de ces sujets.
Y compris
avec des articles en anglais, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.
Tout à fait. Ça, c'est un développement qui est, je dirais, un peu un serpent de mer chez nous, puisque c'est vrai qu'on produit un nombre très important de contenus, et si on avait la capacité à les adresser en anglais à une audience anglaise, ce serait leur donner une deuxième, troisième, même peut-être une quatrième vie. C'est un peu penser les programmes comme ils le sont, par exemple, en télé. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué. Ça coûte pas mal d'argent, de temps surtout, pour assurer une traduction. Et après, la monétisation n'est pas toujours évidente.
Et alors, on l'a dit, parce que là, on a oublié de dire quelque chose, c'est une situation presque inédite en Europe, je crois, un tel monopole, en fait, sur la question du sport, parce que vous êtes un petit peu dans la presse écrite, et puis même au-delà, vous êtes la marque, les autres sont tout à fait subsidiaires par rapport à vous. Là, vous évoquiez d'autres moyens numériques, je sais que vous avez eu plusieurs développements qui ont plus ou moins marché, une association avec RTL sur de la radio, j'imagine que le podcast est en cours, vous avez à un moment donné, à une époque, d'après moi, pas tout à fait contemporaine du lancement de SoFoot, qui est venu un petit peu vous bousculer, un MOOC qui s'appelait Obo, qui n'a pas du tout fonctionné. Oui. Qu'est-ce que vous regardez justement dans ces deux directions ? Et on parlait de l'enquête, vous parlez du point, on peut rappeler quand même que l'équipe appartient au groupe Amaury, qui a été longtemps l'organisateur du Tour de France, le Ballon d'Or, etc., avec aussi potentiellement, et ça fait partie de l'image mentale qu'on peut en avoir, des potentiels conflits d'intérêts, le dopage dans le cyclisme était lié. Là-dessus, sur ces trois choses, l'enquête, les développements possibles, c'est quoi la stratégie ?
Alors sur les développements, pour être tout à fait clair, Obo, ça date d'il y a une petite dizaine d'années, et la radio, RTL l'équipe, ça date d'une quinzaine d'années. Moi je n'étais qu'un jeune reporter à ce moment-là, et je n'étais pas...
Un enfant de l'équipe, vous étiez dans le vivier comme on l'appelle à l'équipe.
J'étais dans le vivier de l'équipe, exactement.
Vous faisiez du basket encore à ce moment-là.
Basket et foot, exactement. Après moi, ce que je crois, c'est que un média comme l'équipe, comme les gros médias, les grandes marques traditionnelles, mais je donne un sens très positif au mot traditionnel, les médias classiques, on va dire, doivent se diversifier à partir des contenus. Moi je crois pas à une diversification en dehors des contenus. Ces projets-là ont été des projets qui n'ont pas rencontré leur audience. En revanche, si je regarde ce qu'on a fait par exemple depuis 5-6 ans sur le numérique, on a créé une nouvelle marque qui s'appelle l'équipe Explore. L'équipe Explore aujourd'hui, c'est une marque d'innovation numérique, qui a été assez pionnière, puisque on a été les premiers à faire des longs formats, des formats stories, des formats audio, vidéo extrêmement poussés qui ont été copiés derrière.
Vous êtes présent sur Snapchat, etc.
Sur Snapchat, bien sûr.
Le podcast foot et rap.
Le podcast aussi qu'on a beaucoup développé. Moi, je pense qu'on a devant nous un vrai potentiel de développement sur le numérique. Il faut qu'on soit capable à la fois d'accroître, je dirais, notre cible sur le gratuit, et de consolider notre offre payante. Le but, évidemment, c'est qu'à terme, le numérique soit un relais de croissance suffisamment puissant par rapport aux baisses des recettes publicitaires et sur le print et à la baisse, des ventes papier. Maintenant, Concernant l'organisation, vous évoquiez le Ballon d'Or ou le Tour de France.
Bon, pour bien repréciser, il se trouve que Zoé l'a dit un petit peu, mais il se trouve que l'équipe appartient à un groupe ASO qui lui-même
Amaury,
mais et dans ce groupe Amaury, il y a
Amaury Sport Organisation
ASO, donc exactement. ASO qui gère le Tour de France, le Marathon de Paris, Paris-Dakar et les Ballons d'Or en dialogue avec France Football. La question, c'est la question de l'étanchéité entre le journalisme d'une part, question classique, et le fait que vous organisez des événements.
Alors, on est totalement indépendant, voilà, c'est-à-dire que...
Totalement, mais c'est quand même le même groupe.
Bien sûr, c'est le même groupe, ce qui nous vaut souvent des problèmes entre avec nos cousins d'ASO.
Mais on peut critiquer le Tour de France, on peut critiquer le Marathon de Paris, vous le faites, bien sûr, mais jusqu'à quel point
On a sorti les plus grosses affaires de dopage, c'est nous qui les avons sorties. On a sorti, par exemple, avant le départ du Tour, en 2007, tous les noms qui étaient concernés par l'affaire Puerto, notamment un ancien vainqueur du Tour qui a été exclu avant que le Tour démarre. Toujours été à la pointe sur même pendant la compétition. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu un coureur qui avait été contrôlé positif, qui portait le maillot jaune à ce moment-là, qui était danois. Voilà, c'est nous qui l'avons sorti également. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ça c'est faut pas imaginer en gros de complot ourdi ou quelque chose qui pourrait être
L'inverse du complot qu'on imagine.
Voilà,
c'est la coopération.
Ouais, ou une forme de coopération.
Emmanuel Paquette sur cette question.
Ben, justement au mois de décembre, au moment où vous remettiez le Ballon d'Or, votre partenaire Mediapart sur le Football X sortait un papier sur.
On l'avait sorti avant.
Lucas Modric.
On l'avait sorti avant, l'été d'avant. C'était une enquête que nous avons menée au long cours. On l'a sorti au mois de juin 2018. Voilà. Donc ils n'ont rien sorti de nouveau par rapport à ce que nous avions sorti à l'époque.
Donc Mediapart vous a recopié.
Ils nous ont pas recopié. Ils ont sûrement passé leur coup de téléphone, eu d'autres intermédiaires, mais ce qui a été sorti, il n'y avait pas d'éléments nouveaux par rapport à ce que nous avons sorti à l'époque, puisque nous avons la chance d'avoir dans nos équipes et parmi nos enquêteurs, Alban Traquet, qui est un spécialiste du football yougoslave. Donc, il avait fait une balade en Yougoslavie, dans l'ex-Yougoslavie, il y a pas très longtemps. Et il a un nombre de contacts extrêmement important. Donc, ça nous a causé un certain nombre de problèmes. Et je vous redonne encore un exemple. Vous parliez tout à l'heure du PSG. On pourrait imaginer que le PSG était tellement puissant, il faut que l'équipe soit conciliant, gentil, etc. Nous avons révélé au mois d'octobre dernier les soupçons de match truqué sur le match PSG Belgrade. Voilà, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'équipe a été un média de passion, puis un média de statistiques. Voilà, je dirais, on est un média d'information. On est un média d'information.
Vous faites un suivi très poussé sur Neymar, par exemple.
Un suivi très poussé sur Neymar, sur toutes les affaires. Mmh. Nous, on n'est pas un ayant droit. On participe pas à l'économie mondiale du ou française
en même,
du
En même temps, ces événements participent à l'économie, tout simplement, du groupe dans lequel vous êtes.
C'est vrai.
L'événementiel, c'est une part très importante du financement du groupe.
C'est vrai, mais nos lecteurs, ils attendent de nous qu'on leur donne une vraie information, vérifiée, qu'on aille, dans la coulisse, raconter ce qui se passe, et c'est ce qu'on fait de plus en plus. Voilà. Nous, on n'aura pas de difficultés, on n'a jamais eu de difficultés, à aller parfois contre les intérêts de notre groupe. Voilà. Si, une affaire de dopage qui concernait un très grand coureur, qui pouvait potentiellement gagner le Tour de France, était en cours d'instruction. Par exemple, je donne juste un exemple. Malheureusement, on a été battu par Le Monde cette année, mais on avait l'information depuis un petit bout de temps. On l'avait 3 mois avant. On savait que l'année dernière, Chris Froome a eu un contrôle anormal sur la Vuelta. La Vuelta est organisée par ASO. Mais c'est pas ASO qui nous l'a donné. Voilà, on a récupéré l'information par ailleurs. Et Le Monde a eu une deuxième confirmation, quasiment concomitante à nous, mais ils l'ont sorti un tout petit peu avant, donc on l'aurait sorti également. Voilà.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors je voulais revenir aussi sur plus largement sur la modification aussi du paysage français. Il y a une révision actuellement de la loi Bichet. Oui. La loi Bichet impose à tous les kiosquiers aujourd'hui d'avoir tous les titres d'information. Et l'idée, c'est de dire aux kiosquiers qu'ils pourraient choisir de mettre en avant tel ou tel titre et de pas diffuser et pas distribuer tous les titres, et notamment les titres d'information générale, donc dans la presse IPG. Je voulais savoir sur l'équipe, est-ce qu'il pouvait y avoir un impact indirect, puisque vous n'êtes pas un titre IPG aujourd'hui. Donc est-ce que cette révision de la loi Bichet est une bonne nouvelle pour vous, ou au contraire, ça peut être une menace?
Alors moi, je crois que pour l'instant, les choses sont pas... Il y a des intentions parfois de certains éditeurs qui ne correspondent pas aux intentions du groupe L'Équipe. on est plutôt rassuré, comment dire, sur la nouvelle loi Bichet qui se mettra en place. Moi, je crois pas que ça aura un impact sur l'équipe. Je pense que la discussion, elle porte plutôt sur le nombre de titres qui seraient visibles dans les kiosques. C'est plutôt la diminution notamment du nombre de magazines, puisque je rappelle qu'en France, à la différence des autres pays, quelqu'un qui veut lancer un magazine, créer un titre de presse, il peut le faire sans avoir d'argent, puisque il va, par exemple, il peut monter un magazine, en faire un tirage à 300 000 exemplaires, vendre de la pub en disant bah, « moi j'ai un tirage à 300 000 exemplaires, donc voilà, je suis assez costaud », le mettre dans le circuit de distribution. C'est Prestalis qui assume, comment dire, une forme d'avance, on va dire, comment dire, le risque. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, quitte à ce que ce soit un échec absolument industriel derrière nous, ce qu'on croit, et je sais, c'est l'objet des discussions actuellement, et je donne ça aussi parce que il y a quelques kiosques tests en ce moment qui ont, comment dire, moins de titres à distribuer. Ce sont des kiosques qui vendent entre 20 et 30% de plus qu'avant. Donc, la profusion, c'est bien, au nom de, je dirais, de l'offre et d'une égalité, comment dire, du lecteur devant l'information, mais avoir un nombre, je sais pas, avoir 25 magazines sur les canidés, je suis pas certain que ça soit très porteur pour le reste de la presse française, où je le rappelle, hein, ce sont l'équipe plus une partie aussi de la presse quotidienne nationale qui porte, voilà, une grande partie des coûts de distribution qui sont partagé, mutualisé entre les différents titres.
Mais en même temps, vous dites ça de l'endroit d'où vous parlez, c'est-à-dire une position de quasi-monopole sur la question du sport.
Quasi-monopolistique, oui et non. C'est-à-dire que
après, il y a des journaux très très spécialisés, rugby, tout ça.
Non, mais je pense qu'il faut regarder, aujourd'hui le paysage français. Le Monde fait énormément de sport. Ils font que des affaires, par exemple, c'est ce qui les intéresse, les l'institutionnel et les affaires. Vous avez un groupe comme RMC, par exemple, aujourd'hui, BFM, qui a énormément investi dans le sport, puisqu'ils ont acquis des droits, comment dire, très chers, la Ligue des Champions, d'autres droits qui étaient aussi très onéreux, et ils ont développé une offre sport qui est extrêmement importante. La PQR, aujourd'hui, fait énormément de sport. Mmh. Voilà, vous avez beaucoup
vous
de titres qui font du
sport. Mais ça, c'est plus ou moins, ça a toujours plus ou moins été un peu vrai, même sur la PQR, par exemple.
La PQR, par exemple, elle ne faisait pas des cahiers de 12 ou 16 pages le dimanche. Voilà. Mmh. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'au fait, aujourd'hui, là où avant vous aviez un lecteur qui achetait, par exemple, deux journaux ou trois journaux le dimanche, il n'en achète plus qu'un seul. Donc quand il n'en achète qu'un seul, est-ce qu'il veut plutôt son information locale avec, je dirais, son offre sport, ou est-ce qu'il veut juste son offre sport ? Voilà. Donc il y a quand même, je dirais, une tectonique des plaques qui fait qu'on n'est pas non plus tout seul dans un monde où, voilà, où les autres ne parleraient pas de sport.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
19h47, même 48 maintenant sur France Culture en direct. Nous recevons ce soir Jérôme Cazadieu, le directeur de la rédaction de L'Équipe. Alors plusieurs questions peut-être pour terminer cette émission. D'abord, une rumeur sur un rachat éventuel de L'Équipe par Veil, donc savoir le groupe SFR.
Alors c'est une rumeur qu'on entend depuis longtemps. J'en ai entendu d'autres avec d'autres groupes et d'autres, comment dire,
grand patron de presse. C'est plutôt une marque d'affection d'une certaine
manière. C'est que l'équipe est un groupe qui donne envie, voilà, et qui est très valorisé. Aujourd'hui il n'y a pas d'intention de la part de l'actionnaire de vendre L'Équipe, voilà, à monsieur Veil. On continue.
A déjà été vendu Le Parisien vers LVMH, et donc du coup vous avez dû vous recentrer sur le sport.
C'est exact, c'est une stratégie de groupe. On a donc ASO, voilà, qui organise des événements. Je dirais qu'il y a deux branches aujourd'hui, deux jambes même.
Vous marchez avec vos deux jambes.
Et donc on marche avec deux jambes. Voilà.
Ça veut dire que la rédaction ne peut pas marcher sans la jambe ASO pour Amaury Sport Organization.
On est un groupe comme la plupart des groupes de presse aujourd'hui. On traverse une période qui est une période compliquée, puisqu'on doit se transformer, voilà, on doit réussir notre mutation digitale. C'est pour ça qu'on a fusionné les rédactions il n'y a pas très longtemps, qu'on a développé une offre numérique payante et gratuite extrêmement fournie, beaucoup plus large qu'avant, qu'on a investi dans les contenus avec des compétences nouvelles, notamment sur évidemment l'innovation ou l'enquête. On a été à une certaine époque je dirais extrêmement profitable, et à cette époque-là ça a été au bénéfice d'ASO et au développement d'ASO. Aujourd'hui c'est ASO qui est profitable, L'Équipe l'est un peu moins, même s'il l'a été l'année dernière. Et donc le but c'est que ça nous permette aussi voilà, de nous donner du temps pour se transformer, puisque les médias sont confrontés à la transformation des usages. Et face à la transformation des usages, voilà, on n'a pas, comment dire, beaucoup de choix. Donc, il faut aller assez vite avec une direction très claire, chose que nous avons mis en place depuis 4 ou 5 ans, en essayant de faire en sorte que tous les publics qui sont intéressés par le sport, y compris des publics qui n'étaient pas acquis, comment dire, à l'équipe, eh bien, ils viennent sur nos supports pour consommer de l'information sous toutes ses formes.
Alors, être le journal leader français sur le sport, au moment où l'actualité est forte, il y aura une coupe du rugby en septembre, cet été il y a un mercato du foot en cours comme chaque année. D'ailleurs, Neymar, Barça ou pas, il repartira ?
Il a envie de partir, voilà. Mmh. Après, il a un contrat, il lui reste 3 ans de contrat. Mmh. Son transfert s'élevait à 222 millions d'euros, donc il partira pas à une somme inférieure, je crois. La direction du PSG a fait savoir qu'elle souhaitait que le joueur parte à un minimum de 300 voire 350 millions d'euros de prix d'achat. Donc voilà, après dans le football, les choses peuvent aller très vite. Je pense que c'est un dossier qui va être long, voilà, qui va nous permettre, voilà, d'avoir des rebondissements pendant tout l'été. Donc pour nous, c'est plutôt intéressant, même si le départ d'un joueur comme ça du championnat de France est toujours une forme de déception, puisque ça reste un joueur de classe mondiale, et des joueurs de classe mondiale dans le championnat de France,
courte,
on en a besoin.
Qui est courte son contrat. Dans l'actualité, il y a bien sûr le fait qu'il y a une Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar en 2022, il y a les Jeux Olympiques, donc oui, beaucoup de choses possibles pour l'équipe en termes de développement et de couverture d'actualité.
Tout à fait.
En particulier en France, pour les Jeux Olympiques.
Je dirais que la Coupe du Monde au Qatar, ça sera une Coupe du Monde un peu comme les autres, sauf qu'elle va être décalée, elle aura lieu en hiver, ça sera une première pour nous, évidemment.
Il sera quand même encore chaud, mais bon.
Oui, il fera encore chaud, bien sûr. Mais les stades seront climatisés, hein, je le rappelle.
Avec de potentielles grosses polémiques à la clé.
Un peu paradoxal.
Qui existe déjà sur la manière dont les stades sont construits, etc.
Tout à fait. En revanche, les Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris, c'est une formidable, occasion pour notre groupe capitaliser sur un développement de la pratique, une extension entre guillemets du sport. Le sport aujourd'hui est encore perçu comme un genre mineur au niveau politique. Moi, je rêverais que le sport soit considéré par, je dirais, l'État, par, je dirais, l'espace public, comme la culture l'est également. Voilà, c'est-à-dire quelque chose qui permet à la fois de faire de l'éducation, de parler de santé, de parler d'information, d'égalité, comment dire, entre les hommes et les femmes. Voilà, c'est des éléments en fait qui sont extrêmement intéressants, et on a quand même 4 ans devant nous. Je dirais qu'une fois que les Jeux olympiques de Tokyo auront lieu l'été prochain, on va avoir 4 ans pour essayer de transformer ça. Et j'ai le sentiment en tout cas que le groupe L'Équipe participera, à cette transformation, et que tous les acteurs, je dirais, de cette montée en puissance jusqu'en 2024 le souhaitent également. Voilà, donc on espère que ça aboutira.
Et sur la question justement de ces sports, notamment les sports olympiques auxquels on s'intéresse en gros une fois tous les 4 ans, voire quand ils ne meurent pas, certains survivent quand on a des figures de proue, le biathlon avec les frères Fourcade, etc. Et les sports disparus, la boxe, le cyclisme dont on parle un peu moins même si on continue à en parler, la boxe et ces sports américains, comment est-ce que vous la regardez justement, la manière dont vous pourriez continuer ou élargir?
Alors, ça c'est les sports.
Pas parler que du foot, quoi.
Le cyclisme, je rappelle que sur notre chaîne, on diffuse 134 jours de compétition cycliste. C'est quand même assez difficile de dire qu'on n'en parle pas.
Non. Parce qu'il y a aussi une chaîne de télévision, même si vous ne la dirigez pas, exactement, elle existe dans le groupe.
Tout à fait. Le journal samedi prochain, il sera tout en jaune, puisque nous fêtons les 100 ans du maillot jaune. Le vélo est un des 5-6 sports principaux de l'équipe. Bien sûr qu'on fait beaucoup de foot, parce qu'aujourd'hui, le foot est le sport qui s'est le plus transformé, qui frappe l'imaginaire collectif de la manière la plus forte, mais autrement le cyclisme est très important, la boxe l'est également, hein. Aux Jeux Olympiques, la boxe était un des sports qui a permis d'avoir le plus de médailles. Donc voilà, on a
puis suivi. Donc le football féminin, une question d'ailleurs à ce sujet, un peu vraiment une question comme ça pour essayer de comprendre, comment se fait-il que les États-Unis n'existent pas dans le football? C'est vraiment le seul domaine des industries créatives dans lequel il n'y a pas d'Américains, et pourquoi est-ce qu'ils ont gagné contre la France dans le football féminin?
Parce que le sport des femmes et des jeunes femmes blanche aux États-Unis, c'est le soccer. C'est-à-dire que le soccer, c'est structuré.
Le football américain.
Le football.
Le football européen.
S'appelle
soccer.
Américaine, qu'ils appellent
le soccer.
Soccer,
ouais.
Vous avez une structuration qui est une structuration scolaire, avec à la fois les collèges, les lycées. Où vous
Mais
avez
pourquoi
des
pas dans le football normal, entre guillemets.
Alors. C'est ce que je vous dis, c'est un football qui est un football plus, je dirais, universitaire, étatique d'une certaine manière, puisque la fédération, les joueuses jouent dans des clubs, qui sont des clubs normalement, il y a une ligue, voilà, qui est privée, mais elles sont rémunérées par la fédération, voilà. Donc vous avez un système qui est, pour une fois, aux États-Unis, qui est plus vers l'État que vers les clubs. Et si vous regardez, l'équipe américaine de football, masculine, voilà, elle va progresser. Je pense que les États-Unis, c'est le prochain grand territoire de développement du football pour la FIFA.
Toujours pas football. La Chine.
Bah la Chine, le problème de la Chine, c'est que aujourd'hui, elle a un championnat qui est corrompu, puisque il y a eu un nombre d'affaires extrêmement important sur des matchs. Donc le public a déserté les stades. La base du.
Il y a été un petit peu, mais il a déserté les stades.
Il y a été pas très. Pas énormément. Après là, il va vouloir revenir. À partir du moment où la Chine organisera la Coupe du Monde de foot, je pense qu'il y aura quelque chose qui se mettra en place. Je rappelle que la Coupe du Monde 2026, ce sera le retour d'une Coupe du Monde de football aux États-Unis, qui sera aussi au Canada et au Mexique. Mais entre, la Coupe du Monde 1994 et la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu, vous avez eu quand même une structuration extrêmement importante du football aux États-Unis.
Jérôme Cazadieu, directeur de la rédaction de l'Équipe. Peut-être juste une question pour terminer. Quand on citait Denis Lalanne tout à l'heure, il écrivait « Le rugby était un sport régional, le tennis un sport de riches, le golf un sport de vieux » quand il était plus jeune. Aujourd'hui, ces trois sports sont une industrie créative, globalisée à part entière. Comment quelqu'un comme vous a vu cette évolution ?
Bah moi, je dirais qu'aujourd'hui, le sport, dans son développement, rentre, maintenant dans un espèce de grand ensemble qu'on pourrait appeler la pop culture, puisqu'elle se mélange de plus en plus avec, on parlait du rap, la musique, tout le show business.
Donc l'équipe média globale, bientôt.
Ouais, média globale, tout à fait, je pense que ce sera ça. Et c'est beaucoup lié au développement de l'industrie du sport, qui est une industrie qui aujourd'hui, si on prend par exemple des équipementiers, ne se conçoivent pas comme des fabricants de maillots ou de chaussures, mais comme des designers de la vie. Et ce sont des gens qui ont beaucoup investi également l'univers culturel, l'univers artistique, et aujourd'hui c'est un ensemble. Et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au soft power et en particulier au Qatar, moi je pense que le Parc des Princes, c'est le lieu d'influence à Paris aujourd'hui. Il suffit d'aller dans les loges pour voir les gens qui sont présents. Et c'est international. International.
Jérôme Cazadieu, merci infiniment d'avoir été notre invité ce soir, directeur de la rédaction de l'Équipe. Soft Power, dans un instant, ça continue. Seconde partie de l'émission avec à 20h10 le club de la presse numérique. Nous reviendrons ce soir sur le conflit cyber entre les États-Unis et l'Iran. Et nous en parlerons avec Emmanuel Paquet de l'Express et Gilles Fontaine de Challenge. Et dans un instant, à 20h, Zoé Sfès, votre invité innovation.
Il entre dans le studio, il s'appelle Serge Avidboul. Vous connaissez peut-être son livre, Le temps des algorithmes, qui avait reçu le prix de la science en 2018. Mais là, on va parler pas uniquement informatique, théorie, on va aussi parler fiction avec lui. Et on est ravis de le faire.
Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power, disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Tout ça à suivre après Thom Yorke sur France Culture. l'instant, Thom Yorke sur France Culture, le titre Trafic, après avoir récemment composé la bande originale du film Suspiria, Thom Yorke, l'emblématique chanteur de Radiohead, a sorti ce vendredi son troisième album solo, Anima. L'album à l'atmosphère dystopique où le chanteur poursuit ses expérimentations electronica, s'accompagne d'un court métrage de 15 minutes réalisé par Paul Thomas Anderson et disponible sur Netflix, Zoé Sfez.
Bah oui, mais on peut noter quand même que Thom Yorke a 50 ans, continue de faire de la recherche toujours sur la même voie, ce qui a quand même fait le succès de Radiohead dans les années 90. Il a 50 ans, il continue à avoir cette voix incroyable quand même qu'on entend et qu'il explore à travers tous les morceaux de cette chanson, et a mené une réflexion sur la machine, d'où la transition toute trouvée avec la conversation que je m'apprête à avoir avec Serge Habitboul. Il y a toute une chanson sur la machine, est-ce que vous pouvez me descendre cette machine ? Je rappelle que Thom Yorke a aussi, fin mai dernier, ouvert les accès à tous les enregistrements, toutes les pistes inédites de l'album le plus culte de Radiohead, OK Computer, qui était sorti en 97. Un hacker avait volé un mini-disque et menaçait de les libérer. Il les a finalement rendus publics et tout l'argent qu'il en a retiré, il l'a donné au profit du mouvement Rebel Extension, donc au profit des écologistes américains.
Thom Yorke se produira à la Philharmonie de Paris dans le cadre du festival Days Off les 7 et 8 juillet prochains, 20h sur France Culture.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Sfez.
Bonsoir Serge Habitboul.
Bonsoir.
Vous êtes mon invité pour cette dernière de Soft Power, dernière de l'invité Innovation. Alors en fait, vous publiez ce livre qui s'appelle Le bot qui murmurait à l'oreille de la vieille dame, sous-titré Autre nouvelle numérique. J'avais envie qu'on termine cette année avec ce livre et le recommander à peu près tous nos auditeurs parce que c'est un livre relativement inédit par sa forme, tout à fait original et sympathique. Serge Habitboul, je rappelle que vous êtes quelqu'un de très sérieux, vous êtes membre du collège de l'ARCEP, donc ça c'est l'autorité de régulation des communications électronique que nous avons reçue ici dans Soft Power. Vous êtes chercheur à l'INRIA, vous êtes informaticien, je crois qu'on peut le dire. Vous êtes connu pour notamment ce fameux livre Le temps des algorithmes avec Gilles Dweck, qui a reçu le prix de la science, c'était l'année dernière en 2018. Puis Terra Data. Et alors là, vous faites un livre qui n'est pas un livre de recherche, ou quoique d'ailleurs, vous allez m'expliquer son projet. Vous écrivez des très courtes nouvelles d'anticipation qui chacune soulève un problème, un sujet sur cette mutation énorme du numérique de notre société. Alors on anticipe plus ou moins d'ailleurs dans ces nouvelles, on est à quelques échelles de temps, puis c'est des scénarios, et ensuite vous faites un petit point sur la question. Pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre, Serge Habitboul, chercheur que vous êtes ?
Alors il y a plein de raisons. La plus forte, la plus importante, c'est que je venais d'écrire Le temps des algorithmes et Terra Data, et j'avais envie de respirer. Parce que les essais scientifiques, c'est agréable. J'ai beaucoup aimé travailler avec Valérie Peugeot et Gilles Dweck, mais j'avais envie de reprendre un peu mon souffle. Et je me suis dit, me lancer dans un... J'écris des romans aussi des fois, mais j'avais pas envie de me lancer dans un gros truc. Alors je me dis, une nouvelle, c'est bien parce que vous l'écrivez en quelques jours, puis quand elle est faite, vous passez à autre chose. C'était un plaisir. Donc c'était principalement au départ pour m'amuser et puis prendre du bon temps. Alors après,
il y a un vrai enjeu pédagogique, c'est ça. C'est pour ça aussi que je le recommande pour nos amis. C'est un livre qui se lit très facilement à la plage, à la montagne ou dans le bus si vous restez travailler en ville. Mais il y a une volonté pédagogue qui était déjà présente dans vos essais, mais disons de manière plus poussée.
Oui, tout à fait. Il y a quand même le projet. Le projet, c'est que j'en avais un peu marre d'entendre des trucs catastrophiques sur le numérique et sur les réalisations de l'informatique. C'est vachement facile d'écrire des dystopies, il y en a plein, il y en a des superbes. J'étais il n'y a pas longtemps sur France Culture pour parler de Matrix. Il y a des trucs qui sont vraiment... Il y a Black Mirror, enfin il y a vraiment
Mirror
plein de
choses. Qui même, n'est même plus presque dystopique, parce que d'ailleurs certaines de vos nouvelles le sont. On n'est pas très 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 loin de nous, parfois.
Oui, mais je pense qu'il faut être un peu calme, il faut garder un petit peu cette techno. Regardez d'abord... Ce qui, moi, m'intéresse, c'est que c'est pas tout négatif. Il y a plein de trucs géniaux qu'on peut faire avec. Et puis, il y a des angoisses qu'on a et qui sont pas forcément méritées. Donc, encore une fois, c'est pas du tout, on n'est pas dans le bisounours Silicon Valley, on n'est pas du tout là-dedans. Mais c'est plutôt un essai de regarder les choses, comme dans Le temps des algorithmes ou dans Terra Data, de regarder les choses de façon honnête, en connaissant les sujets, sans écarter les vrais problèmes, mais sans non plus partir dans l'angoisse à la Black Mirror. Il n'y a pas de raison de s'angoisser. Ces technologies nous apportent d'abord des choses fantastiques.
Alors, peut-être un petit exemple des choses fantastiques que vous avez essayé de mettre en lumière avec une nouvelle dans un de ces livres. Les aspects positifs, moi j'en ai en tête, mais vous, une de celles que vous préféreriez, par exemple?
Ben, je sais pas, parce que c'est difficile, mais c'est difficile à dire. Peut-être une sur la voiture connectée, parce que la voiture connectée, on vous pose des tas de problèmes très compliqués sur la voiture connectée. Qu'est-ce qui va se passer si des hackers arrivent à vous la pirater, etc. Et j'ai voulu montrer ça plutôt comme quelque chose un peu de ludique, comme une course de gendarmes et de voleurs. Ce qui est en fait le fond de ce truc-là. On essaie de faire des sécurités de plus en plus poussées. Les voleurs essaient d'être de plus en plus sophistiqué aussi.
De dépasser les gendarmes et les gendarmes de dépasser les voleurs.
Et moi, ce qui m'amusait là-dedans, c'est que les gendarmes soient en partie un policier automatique et puis que ça se termine comme une bonne vieille course-poursuite dans les rues de Paris. C'est ça qui m'a branché. J'ai aussi voulu faire quelque chose qui montre ça sous un côté un peu ludique, un peu sympathique, pas du tout dans l'angoisse, quoi.
Bah, par exemple, si vous avez une nouvelle qui est censée illustrer nos craintes, ou en tout cas les possibilités, qui est une très belle continuation de la conversation sur le transhumanisme, les robots vont-ils devenir plus humains que nous? Comment cohabiterons-nous avec les robots? Là, vous mettez en scène une situation complexe où pour la première fois, l'équipe de France des humains est battue par l'équipe de France des robots, et que ça donne lieu à des émeutes en Corse. Mais il se trouve que les robots sont presque plus corses que les Corses, parce que comme ils ont toujours été branchés en Corse, ils parlent mieux corse que les Corses. Qu'est-ce que vous vouliez montrer avec cette question-là sur le transhumanisme, cette petite nouvelle très drôle?
Ben, ce que j'ai voulu montrer là, c'est vraiment très précis. C'est que dans les robots, on voit l'autre. Et on voit l'autre, et du coup, ça nous ramène à nous-mêmes. Et puis, ces robots sont très différents de nous, de la même façon que nous, on peut regarder l'étranger, celui qui arrive en France.
Vous dites que tout le monde était raciste et que plus personne ne l'est depuis qu'il y a les robots. L'ennemi est devenu le robot, c'est beaucoup plus facile.
On a trouvé un autre ennemi. Et c'est ça aussi, ça nous replonge aussi devant notre humanisme. Moi, quand je vois dans une de mes nouvelles quelqu'un battre un robot, c'est une machine, on s'en fout. C'est pas grave que quelqu'un batte un robot, ce n'est qu'une machine. Sauf pour la personne qui la frappe. Parce que pour la personne qui frappe, c'est d'une certaine façon perdre son humanisme, parce qu'on humanise ces algorithmes, on humanise ces machines, et les frapper, ben, c'est quelque part se heurter soi-même, quoi.
Mais justement, il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait donner. Évidemment, il y a une très belle place faite à la question des algorithmes. Il y a notamment une enquête policière résolue par un algorithme et plus par un être humain. Qu'est-ce qu'au fond, vous avez envie d'inviter les gens à faire? Vous le dites d'ailleurs dans ces petits textes courts qui, en fait, resituent où on en est aujourd'hui, dans quel scénario, quelle est la réalité ou pas de la place des données, qui aujourd'hui possède nos données, s'y intéresse. Une de vos nouvelles rappelle quand même que l'État est bien présent dans ce débat. Quelle est l'ambition de ce livre et qu'est-ce que vous auriez envie que le grand public connaisse mieux de ces problématiques? Vous dites, on a beaucoup de fantasmes, ça commence d'abord par aller fouiller dans sa machine, en fait. Vous regrettez que les Français connaissent si mal l'informatique dans, on va dire, ça, même pas ses enjeux théoriques, mais dans la cuisine, quoi, informatique.
Là, ça rejoint complètement un combat avec Gilles Dovec et beaucoup de gens sur le fait qu'il faut enseigner beaucoup plus l'informatique. Moi, ce que j'aimerais que ça donne envie de soulever le capot, quoi, de voir ce qu'il y a dedans. Ces trucs-là, on les aime, on les aime pas, il y en a qui nous plaisent plus que d'autres, il y en a qu'on trouve génial, il y en a qui nous embêtent un peu, il y en a qui nous embêtent beaucoup. Mais encore une fois, il faut savoir comment ça fonctionne, il faut qu'on les maîtrise, il faut qu'on ouvre le capot, qu'on regarde dedans. Et il faut garder, c'est un peu aussi une des choses sur lesquelles j'insiste beaucoup, il faut garder en tête que c'est nous qui les avons conçus, c'est nous qui les avons choisis, c'est pas des extraterrestres, c'est notre création. Et s'il y a quelque chose qui nous plaît pas, j'arrête pas de répéter ça. S'il y a quelque chose qui nous plaît pas, on a le droit de dire non, on n'en veut pas. On n'est pas obligé. Il y a rien qui nous oblige à faire des trucs qu'on voudrait pas parce que c'est des algorithmes, parce que c'est possible. Il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a de plus en plus de choses qui vont devenir possibles. C'est à nous de décider ce qu'on veut faire de cette technologie.
Comment vous regardez justement la manière dont aujourd'hui, on sait très bien que l'accélération, l'entrée massive de l'informatique dans nos vies, finalement on peut l'attribuer en grande partie à Apple. Et Apple, c'est quoi? C'est d'avoir justement caché les dessous de la machine et d'avoir donné quelque chose de très propre, de très beau, de très rond, une petite pomme, avec le moins de pouvoir possible. On est face effectivement à disons une espèce de paradoxe avec de plus en plus de gens qui utilisent ces appareils qui ne savent plus comment les utiliser. À part l'État, d'où ça peut venir cette réintroduction, disons, de la culture de la cuisine, de la culture des hackers, celle du début du début de l'informatique.
Mais il faut prendre notre destin en main. C'est-à-dire que si je veux aller faire un chemin pour venir ici, par exemple, que j'utilise la carte qui est sur mon téléphone, Apple ou un autre, bah c'est très bien. J'ai pas besoin de programmer. Mais il faut que je comprenne ce qui se passe. Il faut que je comprenne que là, il y a pas de souci. On m'a donné un chemin. Quand je commence à chercher un produit à acheter, il faut que je comprenne que ce qu'on me donne n'est pas forcément ce que j'ai envie d'acheter moi, mais ce que la boîte qui me file ce logiciel a décidé. Et donc, il faut que j'arrive à maîtriser un peu ces outils. Alors, ça demande un peu de faire un peu en arrière, d'aller plus lentement. Il y a quelque chose dans toutes ces machines qui est fantastique, c'est l'instantanéité, la rapidité. Tout ça va vachement vite, tout ça va très vite, on nous laisse pas le temps de réfléchir. Ben, je pense qu'à un moment donné, il faut se poser la question. Alors, on a toutes ces applications, la plupart du temps, est-ce que vous voulez ouvrir vos données, vous n'avez pas de temps, vous êtes en train de faire quelque chose, vous avez besoin de l'appli, vous dites oui.
Vous dites oui à tout.
À un moment donné, il faut faire un pas en arrière, dire bon, ben, je vais prendre un peu le temps, je vais essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe, je vais essayer de, je vais pas devenir un spécialiste de programmation qui va être embauché chez Google, c'est pas de ça qu'on parle. Mais je vais comprendre suffisamment ce que ça veut dire cloud, ce que ça veut dire la cryptographie, comprendre un minimum ces choses-là pour être capable de décider que non, finalement, j'aime bien cette appli, mais il y a un truc qui me plaît pas. Il y a cette façon, ce choix qui est fait, qui m'est imposé. Je vais prendre le temps de le refuser. Donc c'est juste une question de peut-être un peu de slow life qui me paraît importante dans ce contexte.
Alors effectivement, on a eu des débats politiques toute cette année, on a eu des débats théoriques, on a eu des débats avec des chercheurs, avec des sociologues. Quel est le rôle de la fiction? Vous parliez effectivement, vous étiez l'invité de la méthode scientifique, excellente émission de France Culture. Quel est le rôle de la fiction dans l'appréhension de ce monde-là, selon vous, vous qui êtes chercheur?
Je le trouve un peu négatif, même très négatif. C'est-à-dire que il faut arrêter de faire croire. Alors c'est beau, c'est des très beaux films, c'est des très beaux livres, etc. Il y a rien à dire. Et puis on va pas essayer de réguler ce genre de choses. Mais j'aimerais voir plus de fiction positive, du genre de celle que j'ai essayé d'écrire. Parce que je crois que c'est comme ça qu'on construit un imaginaire, c'est comme ça qu'on fait rêver les jeunes, c'est comme ça qu'on fait rêver les gens qui vont créer les innovations de demain.
Et, tout en les faisant rêver, en les gardant vigilants.
En les gardant vigilants, je pense que montrer qu'il y a un vrai problème dans la gestion des données, c'est dans la protection de la vie privée, par exemple, c'est quelque chose qui peut être créateur d'innovation, c'est quelque chose qui peut créer de la valeur. Donc, c'est tout ça qu'il faut voir. Il faut pas voir ça d'un point de vue négatif. La théorie du complot, un peu la Matrix, etc. On peut rien faire. De toute façon, on est dépassé depuis très longtemps. C'est foutu. Non, il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne, essayer d'apprendre un petit peu, puis essayer de projeter. Le rôle de la fiction, c'est aussi de projeter des imaginaires que les gens ont envie de suivre pour innover, pour créer des mondes nouveaux.
Merci beaucoup Serge Habitboul. Je rappelle le titre de ce petit livre absolument ludique et en même temps précieux, Le bot qui murmurait à l'oreille de la vieille dame. C'est en référence à une charmante nouvelle qu'on vous laisse découvrir. Je rappelle que vous êtes toujours membre du collège de l'ARCEP, chercheur à l'INRA, et que vous aviez publié cet excellent livre. Vous vous autocitez d'ailleurs, c'est assez rigolo, dans ce livre, Le temps des algorithmes, c'était avec Gilles Dewec, c'était en 2018, et vous aviez reçu le prix de la science pour cela. Merci à vous.
Merci à vous.
20h12 sur France Culture.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Un drone américain abattu dans les environs du détroit d'Hormuz, des tankers touchés par des explosions en mer d'Oman, des frappes de représailles annulées in extremis. Ces derniers jours, la tension est montée d'un cran entre les États-Unis et l'Iran. Derrière les menaces de conflits armés, les discussions diplomatiques se jouent également, plus ou moins en coulisses, un affrontement via Internet, un cyber-affrontement. C'est la guerre via les cyber-attaques. Pour discuter de ce sujet ce soir, dans le club de la presse numérique, avec moi en studio Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express, qui revient tout juste de la Cyber Week à Tel Aviv, où il a beaucoup été question de cyber-conflits, et Gilles Fontaine, journaliste à Challenge, qui est aussi l'auteur de « Dans le cyberespace, personne ne vous entend crier », un livre publié chez Jean-Claude Lattès l'année dernière. Alors concrètement, pour commencer, que se passe-t-il, Gilles Fontaine, entre les États-Unis et l'Iran sur le front des cyberattaques?
Alors, Effectivement, vous l'avez souligné, beaucoup de tensions ce mois-ci entre les deux pays. Tout ça naît de nouvelles sanctions, d'une nouvelle vague de sanctions américaines contre Téhéran. Un super tanker qui prend feu, les États-Unis qui accusent immédiatement l'Iran, l'Europe qui demande de tempérer, un drone américain qui est abattu par les gardiens de la Révolution. Et je pense que tout vient de là, en réalité, sur cette nouvelle escalade et en tout cas la phase cyber qu'elle a pu prendre ces dernières semaines. Tout se serait peut-être passé différemment si on n'avait pas eu les images en fait de ce drone américain qui est vécu évidemment par l'administration Trump, l'administration américaine et une bonne partie de l'opinion publique américaine également comme une nouvelle humiliation dans cette région ô combien sensible où les États-Unis ont déjà subi plusieurs revers et l'obligation probablement de réagir d'une manière ou d'une autre. Donc on a eu cet épisode un petit peu rocambolesque de Donald Trump qui annule une frappe réelle, celle-là, une frappe aérienne au dernier moment. Et puis, bizarrement, une fuite par Yahoo News, c'est plutôt inédit.
Étrange. Ouais.
Yahoo News qui fait fuiter ces deux journées de cyberattaque qui auraient effectivement mis à terre tout le système de offensif, donc de missiles et de fusées iraniens. C'est-à-dire qu'ils auraient réussi à pénétrer dans les systèmes d'information et de rendre tout l'arsenal iranien de missiles inopérants. Ce que le gouvernement iranien a immédiatement démenti par la voix de son ministre de l'Information et des Technologies de la Communication en disant que allô, en fait, non, tout va bien et tout fonctionne de façon absolument opérationnelle comme avant et en mentionnant que oui, l'Iran est très souvent attaqué par les États-Unis ou en tout cas est victime de quelque chose comme 30 à 40 millions d'attaques cyber chaque année et que aujourd'hui les systèmes d'information iraniens seraient suffisamment bien protégés en tout cas pour pouvoir résister à ce genre d'attaque. Le problème dans cette histoire, c'est qu'on n'a absolument aucune preuve de la réussite
d'un côté comme de l'autre
ou de son inefficacité.
Emmanuel Paquette sur cette question.
Oui, alors c'est pas la première fois que l'espace cyber est utilisé comme zone de conflictualité entre ces deux nations. En 2012, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu un virus qui s'appelait Stuxnet qui avait directement endommagé les centrifugeuses iraniennes qui servaient justement au programme nucléaire iranien. À l'époque, c'était pour la première fois un système informatique détruisait physiquement des installations. C'est quasiment un tournant dans l'histoire du cyber dans le monde entier. À partir de là, il y a une prise de conscience de ce que pouvaient faire les États-Unis, lié avec Israël d'ailleurs, hein, puisque c'était un co-développement Amérique et États-Unis, de ce qu'on appelle une attaque du type SCADA, c'est-à-dire s'attaquer avec de l'informatique à des systèmes industriels pour les corrompre et pour les saboter. Ça, c'est vraiment un tournant extrêmement important. C'était sous l'administration Obama, c'était pas sous l'administration Trump.
Mais il y a eu par la suite, sous la présidence d'Obama, une sorte d'agreement, presque je dirais de gentleman agreement, lié à la levée de certaines sanctions qui avaient permis de mettre fin, en tout cas publiquement, à ces attaques du moins de larges échelles.
C'est-à-dire qu'il y avait eu un accord effectivement sur le programme de recherche iranien qui devait être stoppé, en contrepartie de la levée de certaines sanctions économiques de Washington. Il se trouve que quand Trump a été élu, c'était un de ses premiers dossiers. Il a dit que cet accord signé par Obama
ne l'engageait pas
et surtout était un mauvais accord et donc il a tout remis à plat pour remettre en place un nouvel accord qui est en cours de discussion. Donc les tensions qu'on voit aujourd'hui entre les deux pays, c'est aussi tout ça en surfond de nouvelles négociations économiques entre les deux pays. Donc il y a un contexte plus large, mais c'est vrai que les tensions aujourd'hui sont extrêmement importantes et l'Iran a quand même dit qu'elle pourrait prendre des représailles avec les alliés américains de la zone, donc l'Arabie Saoudite d'un côté, Israël de l'autre, qui pourraient être les premières victimes en cas de conflit entre les deux pays.
Alors, les Iraniens disent avoir lancé une campagne dite de phishing, selon Wired, qui aurait visé largement les Américains. Le phishing, c'est en fait, Gilles Fontaine, vous allez nous expliquer tout ça, mais c'est une forme de rétorsion.
Phishing. Alors, c'est même une technique très particulière. Le phishing, c'est je jette mon filet dans la mer, j'essaie de ramener un maximum de poissons. Là, ce que les Iraniens ont déployé, et ils sont vraiment très très forts là-dedans, c'est ce qu'on appelle du spear phishing, c'est-à-dire que c'est et des messages, des courriers électroniques, mais qui sont envoyés de façon extrêmement ciblée à des personnes qui ont des responsabilités, qui ont une importance quelconque, et en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, évidemment, de manière à obtenir des informations, des mots de passe, à des codes d'accès, etc. Il y a pas si longtemps, l'affaire a été révélée en 2013, l'histoire du Mabna Institute, qui est une entreprise qui a qui est apparemment très qu'on peut voir à Téhéran, dans la banlieue de Téhéran, qui a lancé une attaque. En fait, son objectif et sa mission au Mabna, c'était d'aider les centres de recherche et les universités iraniens à acquérir des ressources à l'étranger. Ils ont plutôt bien fait le boulot. En fait, c'est des informaticiens qui, grâce à ces campagnes de spear phishing, ont réussi à pénétrer les systèmes d'information de 144 universités américaines et également 176 autres universités, sites universités dans 21 pays, dont le Japon, la Chine, l'Allemagne, etc. Curieusement, la France n'a pas été trop touchée par cette attaque, mais ils ont collecté des montagnes de données. 31 terabits de données, c'est à peu près 5700 films, j'ai fait le calcul de films en haute définition, si vous voyez le volume de données que ça représente. Et là-dedans, il y a beaucoup de correspondances entre chercheurs, des thèses, des projets de brevets, enfin de la matière extrêmement précieuse. Les Américains s'en sont rendus compte un petit peu tard, d'autant plus que 2 ans plus tôt, là, il y avait une autre attaque spear phishing qui avait été lancée contre des institutions financières américaines, une quarantaine d'institutions financières américaines dans la région de New York. Toujours la même technique. Et si vous allez, c'est assez intéressant, si vous allez sur la page du FBI des personnalités cyber les plus recherchées, ben vous trouvez à peu près une vingtaine de hackers apparemment de renom iranien qui savent très bien faire ces choses. Dans le cas des institutions financières américaines, c'était même aller un petit peu plus loin. C'était pas juste collecter de la donnée. Là, on parlait aussi de déni de service. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on casse les serveurs, hein, on les met en rade et on fait en sorte que ces entreprises ne puissent plus fonctionner, quoi.
Alors selon le département américain de Homeland Security, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur au sens large aux États-Unis, celui-ci a fait savoir ce samedi qu'il notait une recrudescence importante des cyberattaques et sans doute notamment Emmanuel Paquette d'origine iranienne.
Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que dans le cyber, il n'y a pas de loi aujourd'hui qui interdit d'attaquer un autre pays. En tout cas, qui considère pas nécessairement qu'une cyberattaque est un acte de guerre. Alors, il y a des évolutions législatives pour faire en sorte que certains types d'attaques informatiques puissent être considérés comme un acte de guerre. La question est de savoir à quel moment, parce que si on s'est déclaré comme un acte de guerre, on peut utiliser des armes conventionnelles, dites conventionnelles, c'est-à-dire la bombe atomique, contre une attaque informatique. Donc il faut que tout ça soit proportionné, et donc il faut que l'attaque informatique soit proportionnée aux mesures de rétorsion qu'on peut mettre en face de ces attaques. Et donc aujourd'hui, il y a une espèce de flou. L'OTAN, il travaille déjà depuis plusieurs années en estimant que l'article 5, donc celui qui permet justement de contre-attaquer avec des missiles, peut être activé par exemple en cas d'attaque contre un membre de l'OTAN. Donc, mais cette détermination au moment donné de la proportionnalité entre l'attaque informatique et j'envoie un missile pose un premier problème de savoir quelle est la cause et la conséquence et comment on proportionne l'attaque cyber avec une attaque dite conventionnelle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui pose problème, c'est celui de l'attribution de l'attaque. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a été cyberattaqué, est-ce qu'on peut certifier que le pays qui nous a attaqué, c'est bien celui sur lequel on a les traces, parce qu'on peut évidemment se cacher. Donc il y a des moyens aujourd'hui, on peut avoir des indices de compromission, par exemple, pour savoir d'où vient l'attaque, mais on n'a pas forcément de certitude. Donc ces deux éléments-là font qu'aujourd'hui, c'est extrêmement dur de qualifier une attaque.
En même temps, Emmanuel Paquette, les usual suspects, comme on dit, les suspects habituels sont assez connus. L'Iran, la Chine, la Russie, ça fait partie des trois grands responsables potentiels, en tout cas lorsqu'on attaque les États-Unis.
Exactement, mais justement, comme tout le monde le sait, il est facile de recopier des modes opératoires de l'Iran, de la Chine ou d'autres pour faire ce qu'on appelle des false flags, donc des faux drapeaux, pour en faire endosser la responsabilité à la Chine, alors qu'en réalité, l'attaquant n'est pas forcément chinois. Donc tout ça, il y a des jeux de dupes. C'est extrêmement compliqué de remonter ces jeux de dupes pour savoir qui est l'attaquant. Et il y a deux systèmes pour le faire. Alors il y a un premier système de renseignement qu'on appelle le SINGIT, donc c'est du renseignement dit électronique. Donc ça, c'est la première base. Et la deuxième, c'est l'UMINT. Donc là, c'est du renseignement dit humain. Et généralement, pour qualifier une cyberattaque, on a besoin du SINGIT et de l'UMINT. Donc il faut de l'humain et de l'électronique.
Gilles Fontaine, sur ces questions.
Moi, je pense qu'on est beaucoup aussi là dans la propagande et dans la
communication.
Je pense que les bons experts en cybersécurité vous disent qu'il est quasiment impossible de détecter en temps réel, de toute façon en temps réel, d'où vient une attaque, et qu'il faut effectivement que les hackers commettent une erreur à un moment ou à un autre en laissant un bout de code qui va aller effectivement les identifier. Et même à ce moment-là, on n'est pas sûr que ce bout de code n'ait pas été laissé là volontairement. Je voulais juste compléter ce que disait Emmanuel sur l'espace de nombre. Droit, c'est vrai que il y a pas grand chose qui régisse les cyberconflits et les cyberattaques aujourd'hui. Il y a quand même le manuel de Tallinn qui a été rédigé par les membres de l'OTAN en fait. C'était un groupe qui s'appelait le Centre d'excellence pour la coopération cyberdéfense et il existe toujours ce centre. Il est basé à Tallinn et l'idée c'est de transposer dans le cyberespace le droit international, de donner au moins des moyens qui sont victimes, les moyens à des pays qui sont victimes, des États souverains, victimes d'une attaque dans le cyberespace, de pouvoir répliquer, en tout cas de pouvoir contrer et ensuite répliquer. Et là-dessus, il y a deux théories quand même assez différentes entre les États-Unis et l'Europe. C'est-à-dire que les États-Unis considèrent que attaque vaut réplique et représailles immédiates, d'où vient l'attaque. Et alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours d'où elle vient. Donc on cible des ordinateurs qui parfois n'ont servi que de points relais, des points relais en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, etc. Mais on ne cible pas l'attaquant directement, alors que les Européens sont plutôt dans la logique de séparer moyens de défense et moyens d'attaque.
Institutionnellement.
Et souvent en refusant de parler d'attribution.
Voilà, et la NSA, par exemple, est une agence américaine qui d'un côté du couloir, vous avez la défense, et de l'autre côté du couloir, vous avez les attaquants. Et les Américains et les Français peuvent être absolument alliés côté, et d'ailleurs ils le sont, côté défense, mais ils ne sont pas du tout copains côté attaque. Donc c'est...
Alors il y a aussi un accord de Paris, il y a l'ONU, on l'a dit, il y a l'OTAN, il y a la Convention de Genève, tout ça progresse, sans doute ça prendra du temps. L'avantage de l'accord de Paris, c'est sur la confiance et la sécurité dans le cyberespace, qui avait été d'ailleurs promu par Emmanuel Macron. Donc on va dans la bonne direction, sauf que ni les États-Unis ni l'Iran n'en faisaient partie, Emmanuel Paquette, pour conclure.
Oui, exactement, parce qu'en plus, c'est d'autant plus compliqué que dans l'univers cyber, quand une arme est utilisée, en fait, elle ne sert plus à rien, elle est disséminée. Donc le défenseur ou celui qui en a été victime se retrouve avec le logiciel qu'il a attaqué et donc peut l'utiliser à son tour. Donc assez vite, c'est pas comme une bombe où on vous largue une bombe, elle explose, c'est fini. Là, on peut réutiliser la bombe et la relancer sur celui qui vous a attaqué. Donc on rentre dans une sphère qui de tension entre les pays qui peut aller très très loin.
Et puis attaquer des équipements, etc.
Des infrastructures, électriques,
lourdes, électriques, nucléaires, des bâtiments, des avions.
En Ukraine, quoi.
Tout ça fonctionne avec de l'informatique.
Exactement, et les dernières attaques, c'était lié justement à ce que disait Gilles, à la NSA, qui avait été piratée, ses armes avaient été piratées, et donc se sont retournées contre les États-Unis. Donc on voit bien la fragilité en fait de ce système dans le cyberespace.
Bien, merci infiniment à tous les deux. Emmanuel Paquette de l'Express, Gilles Fontaine de Challenge. On en reste là pour ce soir et d'ailleurs pour cette saison. Ce soir, la grille de la saison prend fin sur France Culture et laissera la place dès demain matin à notre grille d'été. De nouvelles voix, de nouvelles émissions, une nouvelle couleur d'antenne plus estivale sans doute également. Dans un programme d'une richesse encore insoupçonnée, je vous indique déjà les 5 grandes traversées de l'été sur Céline, Virginia Woolf, Walt Disney, Céleste Albaré chez Marcel Proust, chez Monsieur Proust, c'est le même. Ainsi ainsi que Léonard de Vinci. Vous entendrez également la voix de grands témoins comme Eric Orsenna, Antoine Compagnon et avec vous, Zoé Sfez, Jacques Attali.
Oui, nous sommes projetés dans un exercice de prospective. Ce sera le dimanche parce qu'on aime bien ce jour de midi à midi 30. Que sera le monde dans 18 ans? Les évolutions démographiques, les scénarios pour le climat et puis surtout les scénarios politiques. Que se passe-t-il en France, révolution ou pas? L'Europe, quid? On en parle
voilà.
Tous les dimanches.
Sans oublier les matins d'été, la grande table d'été, du grand mot d'été, etc., etc. Nouvelle grille donc sur France Culture à partir de demain matin. Et quant à nous, nous nous retrouvons les dimanches à partir du 1er septembre. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne, bonne fin de week-end. Et bon été.